OK, si vous le voulez, on va aller dans Apocalypse au chapitre 16. On va étudier aujourd'hui les versets 12 à 21. Apocalypse 16, versets 12 à 21. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme était sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Alors, vous pouvez vous asseoir. Alors, ce qu'on va faire, on va reviser très rapidement ce qu'on a vu la semaine dernière, de manière à se replacer dans le contexte, et on va terminer le passage aujourd'hui. Et à partir de la semaine prochaine, bien, on va commencer à étudier le chapitre 17. J'ai commencé à regarder tout ça, les Écritures, pour me préparer. Alors, on avait dit que j'avais intitulé le message « La sixième et la septième coupe de la colère de Dieu prépare et précise le jugement dernier ». On avait vu, la première idée qu'on avait essayé de regarder la semaine dernière, c'est que le jugement divin est prédéterminé. Bon, ce qu'on avait voulu faire la semaine dernière, c'est de pas juste regarder le passage de ce qu'il dit là, mais de regarder comment ça vient s'inscrire dans les prophéties bibliques concernant la venue future du Messie. Donc, on avait voulu rattacher ce qui se passe maintenant à des promesses que Dieu avait faites depuis même la Genèse. Alors, c'est important de réaliser cela. Alors, le jugement divin est prédéterminé, parce que c'est déjà prophétisé dans les Écritures. Et le jugement divin est préparé. Dans les versets 12 et 16, on avait vu que les rois de l'Orient avaient préparé le chemin pour faire le grand rassemblement pour le rassemblement final de rébellion des hommes contre Dieu. Et la troisième partie, c'était le jugement divin qui est précisé, versets 17 à 21. Donc, on avait regardé que c'était important de comprendre, pour bien comprendre et bien interpréter les sept coupes de la colère de Dieu, de se souvenir que l'élément temps, de ne pas considérer ces coupes comme étant strictement successives, une qui suit dans l'arrêt de l'autre, mais que ça pouvait être partagé dans le même temps. Alors, il y avait William Hendrickson qui pensait ça, et il y avait aussi Herman Oxema, et bien sûr, si on ferait le tour de tous les commentateurs, il y aurait peut-être des différences, mais je pense que ceux qui sont conservateurs, je pense qu'ils vont pas mal tout dans le même sens que ça. Alors, on avait rappelé certains faits concernant les sept coupes de la colère de Dieu. On avait rappelé que les quatre premières coupes, c'était celles qui concernent des plaies sur la nature. Donc, la terre, la mer, les choses qui, la nature autour de nous, pas sur les hommes eux-mêmes. Dans la cinquième, C'était la cinquième coupe avait été versée sur le trône de la bête. Autrement dit, le quartier général de Satan avec ses exécuteurs, Dieu va mettre le désordre là-dedans. Ils ne seront plus capables de se comprendre entre eux autres. Dieu va mettre les ténèbres dans le royaume des ténèbres, autrement dit. Ça va être, et après ça, la sixième coupe, ben là, ça introduit Armageddon. Autrement dit, comment le Seigneur prépare le chemin de rassembler les hommes pour lutter, pour vouloir briser l'Église, vouloir détruire l'Église. Les hommes vont se rassembler dans ce but-là. Et la septième coupe, c'est vraiment celle qui décrit la terreur du jugement dernier. Quand le Seigneur va amener son jugement sur les hommes, qu'est-ce qui va se passer? Alors, à partir du chapitre 17, on voit comment le Seigneur va concrétiser ce qui est annoncé ici, dans la destruction de Babylone la Grande et tout cela. Alors, le jugement prédéterminé, on avait regardé la semaine dernière, le premier point, que prophétiquement, déjà, quand l'homme est tombé, Adam et Ève ont tombé, il y avait un problème majeur qui rentrait dans la société, mais pas un problème ordinaire, comme on dit. Un problème avec des conséquences éternelles. Autrement dit, les hommes, tous les hommes qui sont nés après Adam et Ève, sont nés pécheurs, et la punition d'un pécheur qui meurt dans cet état-là, c'est l'éternité dans le lac de feu, pour l'enfer, dans l'enfer. Alors Dieu, il y avait un problème immense qui a été introduit, mais Dieu a introduit une solution. Et la solution, c'est le Messie. C'est la personne de Jésus, le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Tout à l'heure, on lisait dans la chanson, « Il m'a sauvé de la fosse éternelle. » Si on avait une idée, ne serait-ce que pour quelques secondes, de ce que ça représente être plongé vivant dans le lac de feu, dans la fosse éternelle, on serait mort de terreur. Mort, littéralement. Je suis convaincu de ça. C'est parce qu'on parle de l'enfer comme... On dirait que ça nous passe par-dessus la tête. On dit des choses, mais c'est grave ce qui se passait. Le Seigneur, en envoyant le Messie, si on regarde l'histoire de l'Ancien Testament, c'est à quoi? C'est comment le Seigneur a contrôlé son peuple dans le but d'arriver à un moment où le Seigneur avait décidé que c'était le moment que le Messie arrive, dans Matthieu, les circonstances politiques, économiques, sociales, tout était préparé pour l'arrivée du Messie. Tout l'Ancien Testament, le malin s'est acharné à essayer de briser la lignée messianique. Autrement dit, à maintes et maintes reprises, si on faisait une étude approfondie de l'Ancien Testament, on se rendrait compte que le malin, le diable, a cherché à ce que ça n'arrive pas. Mais ça n'a pas marché. Parce que quand c'était un plan divin, ça concernait Christ, ça ne pouvait pas marcher. Alors, c'est important de réaliser que déjà, dès Genèse 3, 14 et 15, on le relit parce que c'est important. Alors, l'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et entre tous les animaux des champs. » Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On parle de l'Église. Alors, c'est bien important de réaliser que déjà le Seigneur avait amené la solution. Et on sait qu'au cours de l'histoire de l'Ancien Testament, ce sont des choses qui se sont faites de façon progressive. Comment ça a pris de temps avant que les gens réalisent, tu sais, ils avaient compris la promesse du Seigneur dans Genèse, mais comment ça a pris de temps avant qu'ils réalisent les implications de ça sur nos propres vies? Les vies de ceux de l'Ancien Testament? Ceux de l'Ancien Testament qui sont décédés et qui sont au ciel aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont cru au Messie à venir. Il n'était pas venu encore. Mais pour Dieu, quelqu'un qui croyait à ce que Jésus viendrait, ça prend une foi forte, là. Il est venu 4000 ans après la promesse. Alors, vu qu'ils croyaient au Messie à venir, ils ont été sauvés sur cette base-là. À partir du moment où Dans le Nouveau Testament, Jésus est venu. Nous, on ne croit plus au Messie à venir, quoique les Juifs continuent à le faire. Nous, on croit au Messie venu. Il est venu historiquement. On a toute son histoire dans les quatre évangiles. Et on a, dans les explications des épîtres, on a tout pourquoi il est venu, toutes les explications concernant le salut dans Romains et dans plein d'autres. Il y a tellement de choses qu'on apprend par les épîtres. Alors, progressivement, tout ça s'est fait. Et je pense qu'on a aussi l'idée qu'il y a quelque chose qui est prochain qui arrive. Tu sais, on dit que c'est pas successif, mais on a vu aussi que les événements se produisaient tous les siècles, mais que vers la fin, ça va s'accélérer et ça va s'aggraver. Plus on approche du moment de l'Armageddon, du grand jugement dernier, et de la destruction de Babylone et tout cela, plus on parlait de choses ce matin tantôt, là, de enlever le droit parental. Il y a toutes sortes de choses qui se passent actuellement qui sont dans le sens du mal. Et c'est important de réaliser qu'on est dans cette période-là où on est dans les temps de la fin. Moi, j'en suis pleinement convaincu. J'ai aucun doute dans ma tête pour ça. Aucun doute. Donc, le jugement était préparé, versets 12 à 16. La première idée qu'on avait regardée la semaine dernière, c'est dans le verset 12. C'est préparé providentiellement. Autrement dit, comment le Seigneur va s'y prendre pour que les hommes, éventuellement, aient l'idée de vouloir se rassembler dans le but de détruire l'Église. Et le Seigneur il nous dit comment il va s'y prendre. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et son eau sécha pour que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. On avait parlé la semaine dernière, est-ce qu'on doit interpréter l'Euphrate comme un fleuve physique ou comme une séparation de ce qui sépare l'Orient de l'Occident? C'était, je pense, plus symbolique. Le Seigneur est en train de montrer que les rois de l'Orient, tous ceux qui sont à l'Orient, mais le fleuve, à l'époque, c'était l'Euphrate, c'était le fleuve qui était 1800 milles de long. C'était pas un petit fleuve, là. C'était l'endroit de la terre où ça séparait l'Est de l'Ouest. Le Seigneur, quand il dit qu'il va faire sécher un fleuve, je pense pas qu'il est en train de parler que l'eau va sécher et qu'elle va s'évaporer, là. Il est en train de parler que la séparation qui existe entre l'Orient et l'Occident va être ouverte. Autrement dit, les rois de l'Orient vont vouloir prendre le contrôle de ce qui se passe à l'Occident. Alors, ça a toujours été l'inverse qui s'est passé. Si vous regardez l'histoire des hommes, qui est-ce qui contrôle l'ensemble de la Terre, historiquement? C'est l'Ouest. C'est les pays d'Europe et les États-Unis, la partie Ouest qu'on appelle l'Occident, qui a toujours contrôlé ce qui se passait sur la Terre. Mais là, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que ça va être l'Orient. Ça va être l'Est qui va finir par vouloir venir contrôler l'Ouest, mais avec la volonté de vouloir détruire l'Église et tout ce qui s'appelle Christ, qui s'appelle pas n'importe quelle religion, là. Christ, pour eux autres, là, c'est important. Alors, Oxyma est persuadé que la référence à l'Euphrate doit être interprétée symboliquement comme la frontière entre l'Orient, la Chine, l'Inde, les pays musulmans, et l'Occident christianisé, parce qu'aujourd'hui, la France se dit chrétienne, l'Angleterre se dit chrétienne, et plein d'autres, et l'Allemagne, et plein, tout l'Occident, nous-mêmes ici, on se dit qu'on est christianisé parce que la religion chrétienne est répandue. Mais combien de véritables chrétiens à l'intérieur de ceux-là? C'est ça qui est le problème aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui professent être des croyants en Jésus-Christ, mais dont la vie ne démontre pas l'authenticité de leur foi. Alors, c'est des faux. Les faux, à un moment donné, ils vont être absorbés par le système de l'Antichrist. On était rendu à peu près là, versets 13 et 14. Alors, on reprend le passage. « Et je vis sortir de la gueule du dragon. » Le dragon, c'est qui? C'est Satan lui-même. De la gueule de la bête. La bête, c'est qui? Le gouvernement mondial. Le gouvernement qui va être uni sous un seul homme ou un seul groupe d'hommes qui va contrôler la terre entière politiquement. Pas rien qu'un peu, là. Ça va être un contrôle total et absolu. La gueule de la bête et la gueule du faux prophète. Le faux prophète, c'est religieux. Donc, la religion mondiale. Alors, il dit, je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits immondes, semblables à des grenouilles. Et le verset 14 nous précise, c'est qui? Ça devrait nous faire frémir de peur. Parce que si on lit ça, ça nous laisse indifférent, c'est parce qu'on est inconscient. Ça dit, car ce sont des esprits de démons. Et voici ce qu'ils vont faire. Ils vont avoir une caractéristique, ces démons-là. Ils vont faire des prodiges. Qu'est-ce que c'est un prodige? Quelque chose de miraculeux. Ceux qui sont un petit peu au courant de l'histoire chrétienne, au 20e siècle, il y a eu, dans certaines dénominations, des supposés miracles, de la poussière d'or qui tombe sur des bibles, des gens qui lui poussent des dents d'or, des guérisons, toutes sortes d'affaires que les gens voient ça puis ils disent « Ça, je peux pas que ce soit pas Dieu qui fasse ça, là. C'est extraordinaire, c'est un prodige. » Mais la Bible nous dit aussi que vers la fin des temps, Dieu va permettre que des prodiges mensongers. Donc, c'est pas nécessairement parce que c'est mystérieux puis que c'est divin pour autant, là. Alors, ça, qui font des prodiges, puis ça dit, qui vont? Les esprits de démons vont vers les rois de la terre. Donc, l'initiative, ça va être les rois de l'Orient, mais ils vont aller convaincre les rois de toute la terre et du monde entier, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. La trinité infernale du mal est à l'œuvre. Le dragon, c'est Satan lui-même. La bête, c'est l'Antichrist avec son gouvernement mondial. Et le faux prophète avec sa religion et sa philosophie mondiale. Et ça le dit bien, c'est très clair, ce sont des esprits de démons séducteurs. Ça va être le problème de la fin des temps. Les gens vont être séduits parce que les démons vont faire des prodiges. C'est ça, c'est clair, ça nous le dit. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Pas pour rien, les gens vont mordre les gens. Tu sais, ça dit, je pense, dans Thessaloniciens, ils n'ont pas reçu l'esprit de vérité. Ils vont être séduits par le mensonge. Le mensonge va les entourer et ils vont embarquer. Pourquoi ils vont embarquer? Parce qu'ils n'ont pas voulu croire ce que Dieu dit dans les Écritures. Et on pense que ça va être la période de l'histoire où ça va être l'œuvre missionnaire antichrétienne. Les chrétiens, comment ils ont agi au cours de l'histoire, quand vous les regardez, à partir du début jusqu'à aujourd'hui? Ils ont eu une œuvre missionnaire. Dieu leur avait dit, Jésus leur avait dit, « Allez, faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et si vous regardez l'histoire, à partir du 1er siècle à venir jusqu'à aujourd'hui, tu avais l'esprit missionnaire qui était dans le monde chrétien. Mais vers la fin des temps, ça va être l'œuvre missionnaire anti-chrétienne. Autant les chrétiens, on peut être zélés pour amener la lumière, la compréhension de la personne du Messie, autant ça va être l'inverse. Ils vont tout faire pour séduire les gens, mentir, et les gens vont embarquer. Le but du dragon, qui est Satan, est de gagner le monde entier pour l'adhésion à son royaume. Si il veut que les êtres humains embarquent, il va falloir qu'il leur raconte, qu'il leur pète de la broue, comme on dit. Il va leur raconter n'importe quoi. Il va faire des signes mensongers. Les gens vont dire, « Ben voyons, ça vient de Dieu, regarde, ça, c'est surnaturel. » C'est vrai que ça va être surnaturel. Mais si les gens n'ont pas les Écritures pour les guider, ils vont se laisser guider vers quelque chose qui va être leur perdition. Le but du Seigneur, c'est de rassembler ses ennemis en vue de les détruire et de les punir. Dieu permet que le malin travaille à rassembler son peuple, qui a l'idée de détruire l'Église, mais c'est Dieu qui travaille. Quand on dit, prodigieusement et providentiellement, Dieu, dans sa providence, permet ces choses-là. Alors, ce sont les rois de l'Orient qui initient la volonté de destruction de l'Église, mais les rois de la terre et du monde entier les suivent. Pourquoi? Parce qu'ils vont suivre des esprits de démons. Cette guerre contre l'Église a commencé depuis longtemps. Elle s'est poursuivie tout au long de l'histoire et elle atteindra son paroxysme juste avant la fin. Si quelqu'un n'a jamais suivi le cours d'histoire de l'Église, là, je vous conseille très fortement de le faire. Il existe des livres. Là. Ça vaut à peine de le faire. Parce qu'on comprend comment Satan a travaillé, puis qu'on comprend aussi comment Dieu a préservé la foi, a préservé son peuple à travers tous les siècles. Il y a eu des périodes, ça jouait dur en blimeux, comme on dit. Dans le temps, on pourrait tout repasser toutes les périodes de l'histoire. Satan a travaillé fort pour tout détruire. Mais c'est pas d'hier, la guerre. Mais ce que les Écritures nous disent, c'est que vers la fin, ça va devenir plus grave, plus profond, plus violent. Alors, les moyens utilisés, le texte nous le dit d'une façon très claire, des prodiges et des miracles mensongers. On l'a vu dans le livre de l'Apocalypse. Maintenant, allons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12. Là, il parle de l'apparition de l'Antichrist. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. Ici, là, c'est quelque chose d'important qu'il dit. Là. À la fin des temps, le malin va sortir son artillerie lourde, comme on dit. Les gens vont être séduits, vont croire, « Mais voyons donc, ça se peut pas, ça. C'est Dieu qui fait ça. » Le Seigneur intervient et c'est le fameux grand jour du Seigneur Tout-Puissant. On peut regarder certains passages. Si on regardait tous les passages des Écritures, on pourrait passer plusieurs semaines là-dessus. Mais juste quelques passages de l'Ancien Testament. Joël 2, verset 11, par exemple. « Et l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est fort nombreux. L'exécuteur de sa parole est puissant. Certainement, le jour de l'Éternel est grand et terrible. Qui pourra le soutenir? » Sophonie, chapitre 1, versets 14 à 18. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche et vient en toute hâte. La voix du jour de l'Éternel retentit. Là, l'homme vaillant lui-même pousse des cris amers. C'est un jour de colère que ce jour-là, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ruine et de désolation, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour de trompettes et d'alarmes contre les villes fortes et contre les hautes tours. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Leur sang sera répandu comme la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or pourront les délivrer au jour de la colère de l'Éternel. Et par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car c'est d'une entière destruction, car c'est d'une ruine soudaine qu'il frappera tous les habitants de la terre. Quand on regarde les versets 15 et 16, on a vraiment l'idée que le Seigneur fait ça dans un but précis, un but profitable. Il y a plusieurs profits qui vont sortir de tout cela. Versets 15 et 16, ça dit, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et on les rassembla dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon, qui veut dire montagne de la déroute. » Premier profit qui va sortir de tout cela, ça va être celui de la promesse. La description de la vision est interrompue par une promesse et une exhortation. Quatre éléments sont compris là-dedans. Un avertissement. Voici, je viens comme un voleur. Quand que vient vous voler chez vous, d'habitude, il ne vous téléphone pas. Mais le Seigneur va arriver comme un voleur. Personne ne va l'avoir prévu d'avance. L'idée de la soudaineté et de l'imprévisible est forte. Le Seigneur dit, je viens comme un voleur. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 2 et 3. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. C'est intéressant, c'est tout. Comme un voleur dans la nuit, c'est surtout le verset 3, « Lorsqu'ils diront paix et sûreté », dans certaines versions, c'est « paix et sécurité ». On entend ces vocabulaires-là de plus en plus dans les milieux politiques et de plus en plus dans le milieu religieux. Paix et sécurité, c'est ça qu'on promet aux hommes. C'est ça que le Seigneur dit. « Car lorsqu'ils diront paix et sûreté », alors, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et elles n'échapperont point. Matthieu 24, verset 42-43. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Or, considérez ceci, que si un père de famille était averti à quelle veille de la nuit le larron viendra, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Et de quoi nous fait réfléchir, hein? Des fois, on se dit, moi, je pense que c'est proche, quelques années maximum, peut-être même plus vite que ça. Donc, ça contient un avertissement, je viens comme un voleur, et ça comprend aussi une promesse. Heureux celui qui veille. Ça veut dire qu'il faut avoir les deux yeux, comme on dit en anglais, il faut avoir les deux bubbles ouverts. Les bubbles spirituelles. Il faut observer ce qui se passe. Il faut être attentif. Il y a aussi une exhortation, le mot qui garde ses vêtements. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Il nous faut conserver la robe de justice de Christ et de ne pas se laisser séduire par des fausses doctrines anthropocentriques. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Qu'est-ce que c'est la robe de justice de Christ? C'est le fait que quand Jésus est venu, il a accompli à la perfection la volonté de son Père durant toute sa vie. Il n'a pas manqué une seule fois, ni dans sa pensée, ni dans sa parole, ni dans ses actions, ni dans ses omissions. Et la Bible nous dit que lorsqu'on croit en Christ, c'est comme si on avait vécu la vie que Christ a vécue. Ça nous est donné, c'est mis sur notre compte. Quelle aubaine! Moi, je n'ai pas mené une vie où que toutes mes pensées, toutes mes actions, toutes mes paroles au cours de ma vie, au contraire, je mériterais l'enfer éternel. Mais parce que je crois en Christ, la robe de justice de Christ, c'est le fait que Christ, en croyant en lui, ce que lui a vécu, l'obéissance qu'il a eue face au Père, m'est donné sous mon compte à moi, comme si moi je l'avais fait. Ça, c'est un aspect du salut. Le deuxième, c'est vraiment qu'il a payé pour tes péchés. Si tu aurais dû être plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité, bien, il a subi l'équivalent de la douleur que tu aurais dû subir en enfer à ta place. On peut dire des phrases comme ça, puis le cœur reste complètement froid. N'est-ce pas? On peut faire ça. Hein? Mais c'est parce qu'on ne comprend pas ce qui est dit. Là. Si on comprenait ce que c'est que d'être plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité, puis qu'on comprenait que quelqu'un a accepté de subir le châtiment comme moi j'aurais dû subir, lui il le prend à ma place. Il faut comprendre, là. Si on ne comprend pas ça, là, on passe à côté du plat du salut, mais pas à peu près. Puis en plus, la robe de justice. Donc, aux yeux, quand il dit « gardez tes vêtements », c'est que ça veut dire les vêtements, ceux de Christ. Les garder, fais attention pour pas qu'on te dise « ah, oh, ben là, c'est par ton mérite que tu vas gagner le ciel, ou c'est par ci, ou c'est par ça. » C'est tout est centré sur la personne de Christ, sinon, tu es perdu. Très important de saisir ça. Et la quatrième chose, il y a un rappel. Donc, il fait un avertissement, une promesse, une exhortation, puis un rappel, afin qu'il ne marche pas nu. Ça veut dire que si tu n'as pas la robe de justice de Christ, c'est comme si tu es nu. Mais tu es nu aux yeux de Dieu. Pour pouvoir vivre en sa présence, je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous lisez l'Évangile, il y avait une noce, puis il dit, lui, il n'a pas la robe de noce, là. Mettez-moi dehors, dehors! Vous souvenez-vous de ce passage-là? Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'il y avait, là? Il n'avait pas la robe de justice de Christ, même s'il était habillé. Aux yeux de Dieu, il est tout nu. Parce que pour vivre dans la présence de Dieu, il faut que tu aies la robe de justice de Christ. Et on ne peut l'obtenir que par la foi. Et le deuxième profit, vraiment, c'est la bataille finale. Je vous lis le passage de le commentaire de Paulin Bédard. Il fait des observations intéressantes sur Armageddon. Je vous les lis parce que, dans le fond, il dit « Ar, Armageddon, Ar signifie montagne de Megiddon. Ça réfère sans doute à la ville de Megiddo dans la Bible. » Situé dans la région du Carmel, près d'un étroit passage entre la côte et la vallée de l'Esdradon ou Jisraël, l'un des champs de bataille importants de l'histoire ancienne et sacrée. Pas pour rien que le Seigneur a choisi le mot Armageddon. Parce que si vous comprendriez, dans l'histoire d'Israël, ça a toujours été un endroit où il se passait des guerres importantes. Et le Seigneur choisit ça symboliquement, et il y a une raison pour laquelle. Il dit, Barak et Déborah ont vaincu les rois de Cananéen à Megiddo. Le roi croyant Josias fut tué à Megiddo durant sa bataille, durant le pharaon Nécho d'Égypte. À cause de son importance dans l'histoire de la Révélation, ce champ de bataille a pu devenir le symbole du lieu de bataille finale qui sera engagé par les royaumes du monde contre le royaume de Dieu. C'est un symbole. Il prend un symbole de guerre entre Israël et les nations et il l'utilise pour parler de la guerre entre le peuple de Dieu et les royaumes du monde. Il dit « Toutes sortes d'interprétations farfelues ont été données au sujet de cet Armageddon. Certains pensent que cette bataille serait une guerre entre deux groupes de nations actuelles, par exemple la Russie et les peuples musulmans contre le monde anglo-saxon, ou bien la Russie, l'Italie et le Japon contre la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, ou bien l'Allemagne, l'Italie et le Japon contre la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. » Les dispensationalistes pensent que cette bataille doit être prise littéralement et qu'elle aurait lieu immédiatement à la fin des supposés 7 ans de tribulation. Là, tout est dans l'interprétation. Ça, on rentre dans une autre affaire. Là. Cette période de 7 ans de catastrophe culminerait par l'épouvantable bataille d'Armageddon. Cette bataille aurait lieu en Palestine, et réunirait des armées représentant toutes les nations de la terre venues combattre Israël. Jésus reviendrait alors avec son Église. Il descendrait sur terre pour y détruire l'Antichrist et tous ses ennemis et pour y établir son royaume terrestre pendant 1000 ans. Encore là, toute la question du millénium, c'est toute une grosse histoire, là. Là, je vous donne l'interprétation des dispensationalistes. Elle repose aussi sur une incompréhension de la nature hautement symbolique de l'Apocalypse qui est interprétée de façon beaucoup trop littérale. Notre compréhension de ce livre nous amène à conclure que la bataille d'Armageddon n'a rien à voir avec un rassemblement de chars d'assaut blindés, ni avec une supposée culmination de 7 ans de grande tribulation, suivie d'un millénium terrestre pour les Juifs. Armageddon est en réalité le symbole des batailles où les croyants sont opprimés et où Dieu, de façon soudaine, révèle sa puissance pour délivrer son peuple et vaincre l'ennemi. La grande et dernière bataille d'Armageddon dont il est question dans ce texte est le moment où Satan, les gouvernements antichrétiens, la bête, et les religions antichrétiennes, les faux prophètes, seront réunis contre l'Église pour la bataille finale. Opprimés de toutes parts, les enfants de Dieu seront soudainement délivrés lorsque Jésus-Christ reviendra dans toute sa gloire. C'est la raison pour laquelle Armageddon fait partie de la 6e coupe, suivie de la 7e, qui est le jour du jugement dernier. La 6e est en train de se déverser tout au long de l'histoire. Les troupes se rassemblent progressivement. Sa réalisation aura toutefois lieu juste avant la fin, juste avant le jugement dernier. Plusieurs moyens vont être utilisés par les esprits de démons pour rassembler les troupes ennemies de Dieu. Les politiciens, les médias, les faux théologiens, les philosophes, les arts, la science, la culture, l'éducation, etc. Le tout sera manifesté dans une multitude de projets, de méthodes et d'entreprises diaboliques. Autrement dit, aucun moyen qui sera pas utilisé pour convaincre les hommes d'adhérer au royaume de l'Antichrist. Tous les moyens vont être utilisés, sans exception. Alors, le regroupement de ces forces du mal dans la guerre finale visera l'anéantissement des saints et la destruction de la véritable Église chrétienne fidèle. Et c'est là que le Seigneur intervient. Ça vous va? Bonjour. Le troisième point qu'on va regarder, c'est que le jugement divin est précisé, versets 17 à 21, de façon immuable. Parce que ça dit, le septième ange versa sa coupe dans l'air et il sortit du ciel, du trône, une grande voix qui disait « c'en est fait ». Très intéressant le mot « c'en est fait » parce que ça veut dire tout ce que Dieu a promis concernant ce qui était pour arriver à l'état des fins. « C'en est fait », ça veut dire « c'est réalisé ». C'est un mot fort. La septième coupe décrit la destruction finale et complète du royaume de l'Antichrist. Elle suit immédiatement la bataille d'Armageddon. Nous savons que l'air est indispensable au maintien de la vie. De plus, les Écritures nous parlent de l'air et de sa relation avec Satan. Remarquez le verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Le septième ange versa sa coupe dans l'air. Et si vous regardez, vous mettez ça en relation avec d'autres passages des Écritures, Éphésiens 2:2 dit, « Dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. » Satan, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et on peut retourner dans Apocalypse, verset 9, verset 1 à 3. « Et le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme fut donnée à cet ange, et il ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. » Quand on avait passé là, vous souvenez-vous, c'était quoi cette fumée-là? C'était des esprits de démons qui sortaient en quantité tellement phénoménale qu'ils disaient l'air furent obscurcis par la fumée. Et cette fumée de sauterelle se répandit sur la terre et on leur donna un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Après que le septième ange verse la septième coupe, la voix de Dieu lui-même se fait entendre pour confirmer que le jugement est complété, réalisé et accompli. C'est ça que l'expression veut dire, « c'en est fait ». C'est sorti une voix du temple qui a dit, « C'en est fait. C'est comme si, quand Jésus était sur la croix, puis il a dit, « Tout est accompli. » C'est à peu près l'équivalent. Alors, l'expression « c'en est fait » signifie que la colère de Dieu est consommée, qu'elle est complète, et que le but final est atteint. Versets 18 à 20, « Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un grand tremblement de terre. » Et un si grand tremblement de terre qu'il n'y en avait jamais eu de pareil depuis qu'il y a des hommes sur la terre. Et la grande cité fut divisée en trois parties. Les villes des nations furent renversées. Et Dieu se souvint de la grande Babylone pour lui donner la coupe du vin de la colère, de sa colère. Et toute île s'enfuit, les montagnes ne furent plus trouvées. L'ampleur du jugement est soulignée par l'expression des voix, des tonnerres, des éclairs et un grand tremblement de terre. C'est un jugement universel et de nature cosmique. La sévérité du jugement est exprimée par le fait qu'il est unique et que rien de semblable n'a été observé dans toute l'histoire des hommes sur la terre de toutes les époques. Hey, quand vous parlez, je ne sais pas si vous avez déjà vécu un tremblement de terre. Moi, j'ai déjà vécu un petit peu, là, je me souviens d'une année avant. Là. La terre faisait ça, j'ai eu peur. Mais c'est rien. Quand tu as vu ceux du Japon, aller sur Internet, là, puis aller sur. Puis regarder les gros, il y en a, là. Hey, les magasins, c'est le même. Là. Puis là, ça dit que ça, c'est, on regarde ça, puis on dit ouh, j'aurais tué la frousse de ma vie, j'aurais été là. Mais là, ça dit que le tremblement de terre que le Seigneur va permettre va être tellement grand qu'il n'a jamais eu de semblable depuis que la terre existe. Va-t-il être sévère, vous pensez? Alors, ce sera absolument terrifiant. La dislocation de la création tout entière, des écroulements gigantesques, des renversements, des crevasses, des anéantissements, des cataclysmes et des ravages incomparables et indescriptibles. Les beautés naturelles, magnifiques et gigantesques, vont complètement disparaître. On a, par exemple, dans Daniel 12, versets 1 et 2, « En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre, et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. » Autre chose qui se passe dans le décalogue, quand le décalogue a été donné, les 10 commandements de Dieu dans Exode 19, versets 16 à 18. C'est-à-dire, le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne et un son de trompette très fort, et tout le peuple qui était au camp trembla. Alors Moïse fit sortir le peuple du camp au devant de Dieu, et ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Or, le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu dans le feu, et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait fort. On a de la misère à s'imaginer ça, hein, quand le commandement de Dieu était donné. Si on aurait été là, là, ça, le peuple d'Israël était dans la terreur. Mais là, ça va être la fin des terres. Toute la terre va être dans terreur. Et on parle de façon immodérée, verset 21. « Et il tomba du ciel sur les hommes une grosse grêle du poids d'un talent, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que la plaie qu'elle causa fut fort grande. Les grêlons sont énormes. Le poids d'un talent... » C'est environ une centaine de livres. Un grêlon de 100 livres, c'est mieux de ne pas l'avoir sur la tête. Parce que... Cela symbolise l'énormité de la force de frappe du jugement de Dieu. La catastrophe est énorme et terriblement destructrice. La dureté, la profondeur de la corruption et de la rébellion des pécheurs est illustrée par le fait qu'ils blasphémèrent Dieu et ne se repentir pas. Imaginez, un jugement d'une telle sévérité, puis les hommes vont continuer à blasphémer. On a-tu une idée jusqu'à quel point c'est pourri un homme? La destruction des forces du mal a aussi pour but de faire éclater la gloire de Dieu et la grandeur de la rédemption de son Église. Quatre applications, on termine là-dessus. Rappelons-nous sans cesse ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Étudions la prophétie, car elle est une grande source de paix et de joie. Deuxième application, soyons dans l'admiration devant la souveraineté et la providence divine qui contrôle tous les événements de l'univers et de la terre. Dieu dirige la vie humaine dans ses aspects collectifs et dans ses aspects individuels. Pas un détail ne lui échappe. Tout est sage et reflète les attributs du Seigneur. Troisièmement, Satan manifeste sa folie de s'opposer à Dieu. Son orgueil est incommensurable et il s'obstine dans son combat, malgré qu'il sait pertinemment qu'il est perdant. Ses serviteurs lui ressemblent. On le voit un petit peu au jour de nos jours. Quatrièmement, soyons encouragés par la promesse du Seigneur. Suivons son précieux conseil de persévérer et d'être vigilants. Gardons les vérités du salut pures et centrées sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Que notre grand, glorieux et merveilleux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soit adoré, loué et exalté éternellement. Amen.